Bonjour.
Voilà, nous vous écoutons.
Alors, j'ai fait un rêve il y a quelques jours. Dans mon rêve, je me trouve avec mon frère et ma sœur. On est adultes dans le rêve, mais il y a un petit peu une ambiance d'enfant. On est dans une voiture et en fait, on a dans l'intention de rentrer par effraction dans un grand immeuble où siège une sorte d'institution qui, d'une manière ou d'une autre, nous a fait du mal, hein, mon frère, ma sœur et moi. Et on veut soit leur rendre l'appareil, soit... on n'a pas des plans très très précis, mais enfin, on a des mauvaises intentions à leur égard. On a un petit chien avec nous. On sort de la voiture, on traverse le jardin en essayant d'être discret. On n'y arrive pas trop parce qu'il y a le chien qui fait le guignol. On a un peu l'air de clown, en fait. Mais nous, on se prend très au sérieux, tous les trois. On arrive jusqu'à l'immeuble. Je me souviens plus si on monte les escaliers ou si on monte par l'extérieur, par les fenêtres. Mais en tout cas, on fouille un petit peu à l'intérieur de l'immeuble pour trouver, je ne sais plus si c'est un coffre-fort ou pour trouver quelque chose qu'on puisse, soit qu'on puisse leur piquer, soit un truc comme ça. Et puis à un moment, on se retrouve dans une pièce où il y a un bébé qui dort. Et on arrive dans la pièce et on se dit, finalement, on n'a qu'à kidnapper ce bébé et puis ça sera très bien. Alors il y a mon frère et ma sœur qui commencent à préparer des instruments pour kidnapper le bébé. Et puis moi, il me semble qu'au début aussi. Et puis au début, en fait, on voit le bébé vraiment comme un objet. On ne se rend pas du tout compte que c'est un être vivant. On le voit un peu comme une... On n'a aucune attention particulière envers lui, aucun sentiment humain, en fait. Et puis même physiquement, il a un peu l'air d'une poupée en cire. Moi, je me souviens de... Il a une consistance un peu cireuse comme ça. Et puis, plus le temps passe et plus je me rends compte que tout d'un coup, je commence à prendre conscience que le bébé est vivant. Je vois son ventre respirer. Et puis, il commence à m'inspirer de la compassion. Je vois ses petits yeux qui clignent. Il prend un air tout mignon. Enfin, et puis, je me mets petit à petit à avoir des sentiments humains envers ce bébé. Et à côté de ça, il y a mon frère et ma sœur qui continuent de préparer des instruments très bizarres pour faire descendre le bébé par la fenêtre. Et en fait, on avait l'intention de tout un système de cordage. Et on se disait, pour qu'il soit mieux encordé, au lieu de l'encorder par l'extérieur, on va l'encorder par l'intérieur. On va lui enfoncer des espèces de crochets par l'intérieur de la bouche et du nez et tout ça, qui vont comme des cathéters qui vont le crocheter de l'intérieur. Donc un truc absolument torturant, quoi. Mais nous, ça ne nous gênait pas parce qu'on le voyait comme un objet au départ. Ils étaient en train de préparer ça, mon frère et ma sœur à côté. Et en fait, plus la nuit passe, ça se passe la nuit donc, et plus la nuit avance, et plus on se rend compte tous les trois, comme dans une sorte de télépathie, que en fait, c'est un bébé vivant et que c'est horrible ce qu'on projette de lui faire et que... En fait, on n'a pas du tout envie de le faire. Et plus le temps passe, moins on a envie de le faire. Et mon frère et ma sœur font traîner ça jusqu'à la fin de la nuit en espérant que l'autre va terminer de faire ses instruments en premier et va aller pour échapper à la... Enfin, chacun essaye de finalement de pas être obligé de torturer ce bébé, quoi. Et à la fin de la nuit, juste à l'aube, j'ai dit aux autres... Est-ce que finalement vous pensez pas que on devrait renoncer finalement, et puis après tout il est pas trop tard, on peut quand même prendre le bébé avec nous, et puis au lieu de le descendre par des crochets, on le prend sous notre bras et puis c'est tout. Et alors tout le monde est soulagé de pas qu'on soit pas obligé de le torturer. On le prend sous notre bras et puis on commence à descendre par la fenêtre avec. Et en fait, pendant tout le rêve, il y a une espèce d'instance extérieure, observatrice, qui est parfois qui est complètement neutre et qui nous regarde un peu d'un air moqueur, en se moquant un peu de notre manière pas du tout professionnelle de faire les kidnappeurs. Et notre manque de discrétion. Et en même temps, parfois, cette instance, elle prend la forme d'un genre de délégué du personnel de cette institution où on était rentré par effraction. Un délégué du personnel qui a l'intention de nous prendre la main dans le sac, en fait, quand on fait au moment où on avait l'intention de torturer le bébé. Puis tout d'un coup, en voyant qu'on décide de ne pas le torturer, il est frustré comme tout, ce délégué du personnel, de ne pas pouvoir nous prendre la main dans le sac. Mais il décide de toujours pas nous mettre le grappin dessus, puisque nous, on va peut-être l'amener jusqu'à nos complices s'il continue de nous suivre jusqu'au bout de l'affaire, en fait. Et donc, à la fin du rêve, donc on descend par la fenêtre. C'est une fenêtre très haute, ça doit être au 7e ou au 8e étage d'un vieil immeuble. On descend, on retraverse le jardin, et là, ce qui domine, c'est un peu un sentiment d'euphorie. Moi, je suis vraiment avec... je tiens le bébé dans mes bras, et puis je me comporte vraiment comme une jeune mère qui investit tous ses sentiments d'amour envers le bébé. Et puis, alors, je suis très, très, très affectueuse, et il éveille une énorme humanité en moi, et puis mon frère et ma sœur aussi, d'ailleurs, sauf que eux, ils sont un peu occupés à nous, disons, à sauver nos corps, et moi c'est comme si j'étais un peu occupée à sauver notre âme, et donc eux ils sont plutôt occupés à me dire allez Delphine, dépêche-toi, il faut qu'on se sauve avant qu'ils nous prennent, et puis moi j'étais un peu dans mes nuages avec le bébé, mais bon je les suivais plus ou moins, et puis voilà, ça s'est un peu terminé comme ça en fait.
C'est la fratrie complète qui est là dans le rêve?
C'est là.
C'est la fratrie complète?
Oui.
Vous êtes trois?
On est trois, oui.
Lesquels n'ont pas eu d'enfants?
Personne n'a eu d'enfants.
Personne n'a eu d'enfants, d'accord. C'est curieux.
Mm-hmm.
Mais pourtant, vous êtes proche d'enfants aujourd'hui?
Non. J'ai pas d'enfants moi-même.
Non, mais vous avez pas des amis qui ont... en tout cas, on voit que votre regard sur l'enfance a complètement changé. Il est évident que ce n'est pas un enfant, c'est vous que vous voyez, parce que là, on voit que vous avez été victime de maltraitance étant enfant, et que cette maltraitance qui vient du père, cette manipulation qui vient du père, vous a empêché d'avoir des enfants tous les trois. Vous avez été chosifié. Cet enfant que vous voyez, c'est vous, c'est comment vous avez été traité.
Mm-hmm.
Donc, cette instance dans laquelle vous pénétrez, par effraction, c'est ce que votre père a laissé en vous.
D'accord.
L'image du père, l'image de l'homme, l'image du pouvoir. Mm-hmm. Il avait une position, il avait quelque chose d'important, votre père?
Socialement parlant?
Oui.
Un poste relativement responsable, professionnel, mais pas non plus... Vers la fin de sa carrière, il a eu des postes de directeur, disons, mais bon...
D'accord, donc il s'est élevé socialement.
Oui.
Oui.
Il est parti de très bas. Disons qu'il il a fait des études, mais il avait de grosses difficultés financières au début de sa vie. Il venait d'une famille pauvre. Et il a réussi à bâtir sa vie familiale et sociale et
oui.
Professionnelle.
Mais vous en avez souffert, vous?
Oui, on en a souffert, oui, dans le sens où il a un peu délaissé tout ce qui était sentiments familiaux pour se consacrer à sa profession énormément. Oui,
mais vous instrumentalisez aussi.
Ça, j'en avais pas conscience. Dans quel sens?
Bah, dans le sens où il se sert de vous. Il exerce une pression sur vous qui est représentée par l'espèce de délégué du personnel. C'est-à-dire qu'il vous formate d'une certaine manière à vous mettre en faute. Et chaque fois que vous êtes en faute, votre surmoi intervient et vous vous punissez. Sauf que là, on voit que plus vous avancez dans le rêve, plus vous avez un regard sur l'individu, enfant, humain qui est en vous, un regard de compassion, c'est le mot que vous avez utilisé.
Mm-hmm.
Donc on voit qu'au fur et à mesure de votre progression dans la vie, vous avez réussi à retrouver de l'amour pour vous, à prendre soin de vous et à entrer dans le processus de réalisation de soi-même, processus d'individuation.
Mm-hmm.
Donc, vous arrêtez le système de souffrance dans lequel votre père vous a contraint.
Mm-hmm.
Vous ne reproduisez plus, au bout d'un moment, ce système de souffrance. Vous arrivez à vous échapper de cet univers. Et là, c'est très intéressant parce que vous avez utilisé le mot instant, je crois.
Oui.
Et là, on est dans ce que Freud appelle les trois instances du deuxième topic. C'est moi sur moi et ça.
Mm-hmm.
Donc là, on voit que toutes les pulsions du ça ont été annihilées. Le surmoi a été développé de façon considérable et que le moi arrive à l'atténuer. C'est-à-dire que le cœur, l'amour, arrive peu à peu à défaire les engrammes, le conditionnement que votre surmoi reproduit de façon permanente. Le délégué du personnel, c'est votre surmoi.
D'accord.
C'est donc celui qui collabore inconsciemment à la sévérité ou à l'astreinte du père.
D'accord, oui.
Il est donc pris en défaut, ce surmoi, et le moi devient de plus en plus présent,
mm-hmm.
de plus en plus actif. Le cœur, l'amour, la compassion sont présentes.
Mm-hmm.
Et vous devenez de plus en plus humain, puisque vous le dites, vous avez de l'amour pour un être humain, vous avez des sentiments humains. Enfin, c'est, mm-hmm. C'est le terme exact que vous avez utilisé, des sentiments humains.
Mm-hmm.
Donc vous avez aujourd'hui des sentiments humains et vous êtes capable de regarder le monde avec des yeux complètement nouveaux.
Oui.
Le fait que vous sortiez par la fenêtre, bon, c'est effectivement une espèce de fuite, mm-hmm. mais en même temps, la fenêtre, c'est le regard. Donc votre regard sur le monde est en train de changer complètement.
Mm-hmm.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début, vous avez un chien qui vous accompagne, qui représente le gardien du corps, des instincts.
Qui représente ?
Le gardien du corps et des instincts.
D'accord.
Donc une partie dont vous n'avez pas, qui n'a pas été défaite complètement, mm-hmm. dont vous ne vous êtes pas coupé, qui se révolte à sa manière, c'est-à-dire que vous faites le pitre.
Mm-hmm.
La seule façon que vous ayez trouvé de vous protéger, dans la famille apparemment, de la puissance ou de la enfin, tyrannie du père, c'est en faisant le pitre,
mm-hmm.
en ne perdant pas votre sens de l'humour ou en restant parfois de grands enfants.
Mm-hmm. Voilà, c'est peut-être plus tout ça parce que le sens de l'humour, bon, c'est pas qu'on en est dépourvu, mais enfin, c'est peut-être pas ça qui nous caractérise en premier. Je
ou dirais. Alors en restant de grands enfants ou en révoltant d'une manière un peu infantile,
mm-hmm.
en tout cas en ne passant pas inaperçu.
Voilà, d'accord, ça oui.
Vous vous étiez déjà demandé pourquoi aucun de vous trois n'avait eu d'enfant ?
Oui, je m'étais posé la question, oui.
Vous aviez remis en cause l'image du père ou pas du tout ?
L'image du père, indirectement peut-être, oui.
Vous vous souvenez de quelle manière il pouvait vous prendre en faute ?
Il a eu l'occasion de me prendre en faute, si je comprends bien le terme, parce que j'ai failli me marier à une époque, et le mariage a été plus ou moins, pas vraiment empêché, mais enfin, disons que mes parents m'ont beaucoup mis des bâtons dans les roues, et du coup, je me suis pas mariée, et puis j'ai fini par quitter l'homme avec qui j'étais supposée
marier. Oui, mais là, vous étiez pas en faute, en voulant vous marier.
Non, j'étais pas en faute, mais ils m'ont fait...
Donc votre père veut vous garder avec lui ? Vous possédez ?
Oui.
Enfin, c'est peut-être pas comme ça que vous le ressentez, mais dans les fêtes,
mm-hmm.
en vous empêchant de vous marier, c'est une espèce de droit de seigneur.
Donc, lui, son intention, c'était pas de m'empêcher de me marier, mais c'était d'imposer sa manière à lui de voir la cérémonie, etc., et qui me plaisait pas du tout.
D'accord. Donc, c'est à ce moment-là, il vous impose un système dans lequel vous êtes en faute.
Voilà.
Si vous ne respectez pas ce...
Voilà, ça a été très caractéristique de toute manière de sa façon de nous éduquer tous les trois. C'était de nous imposer un système de valeurs qui lui était personnel et qui ne correspondait pas très bien à aucun des trois enfants.
D'accord, donc un système de valeurs parfaitement arbitraire.
Disons, il lui était personnel.
Vous n'osez pas dire arbitraire ?
Arbitraire, c'est dans le sens d'un hasard ?
Dans le sens où c'est lui seul qui régit cette autorité.
Ça, oui. Oui. Tyrannique plutôt que arbitraire.
Voilà, c'est ça, puisque pour qu'il y ait une réelle autorité, il faut qu'il y ait un moyen de faire appliquer cette autorité ou qu'il y ait un référent extérieur.
Mm-hmm.
Donc ce référent extérieur, il n'existe pas réellement. Ce n'est que le père qui est le dépositaire de l'autorité.
Le père et la mère, oui.
Oui, il n'y a pas une loi qui puisse extérieurement prouver comment dire, l'authenticité de la loi qu'applique votre père.
Non, non, non.
Elle est
c'est
personnelle.
Uniquement par rapport à sa personnalité à lui,
voilà,
qu'il avait géré sa vie à lui d'une certaine manière et qu'il aurait voulu nous imposer la même façon de gérer notre vie à nous, quoi.
Oui, donc vous dites autoritaire, enfin vous dites personnel pour ne pas dire arbitraire.
Bah, c'est-à-dire que pour moi, dans le mot arbitraire, pour moi, il veut dire hasardeux. Donc, on a... Disons que c'était pas le fruit d'un hasard, c'était le fruit de sa gestion à lui,
enfin,
de sa propre vie à lui, mais qui n'était pas lié à la nôtre, quoi.
Arbitraire, ça veut dire subjectif.
D'accord, bon, je veux bien l'accepter dans ce sens.
Dans ce sens, hein.
Mm-hmm. D'accord. Oui, oui, alors tout à fait, oui.
Oui, donc vous avez pu être prise en faute maintes fois, puisque cette autorité, si elle n'est pas arbitraire, en tout cas est personnelle.
Ah oui, j'ai été prise en faute maintes fois. Par exemple,
oui.
J'ai fait des études de médecine, un petit peu énormément sous l'influence de mes parents qui m'y ont beaucoup poussée. Le jour où j'ai décidé d'aller étudier ce que j'avais envie d'étudier, ça a été une grosse faute dans l'esprit de mes parents.
Voilà. Donc en permanence, vous êtes prise en faute.
Par mes parents, oui. Oui.
Par un système d'autorité arbitraire.
Mm-hmm. Oui.
Et vous avez utilisé le mot grappin et vous utilisez des crochets, c'est parce que vous avez le sentiment qu'on a mis le grappin sur votre vie.
Ah oui, ça oui. Tout à fait.
Donc vous avez été dépersonnalisé uniquement pour servir au plaisir égoïste d'un individu ou du couple parental.
Oui, tout à fait, oui.
Mais on a l'impression que c'est quand même le père qui régente les désirs aussi de la mère.
Oui.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en humanisant cet enfant qui est en vous, vous réaccédez à votre désir.
Mm-hmm.
Donc vous reprenez possession de vos désirs avec le droit d'accorder la réalisation de ces désirs.
Mm-hmm.
Ce rêve est récent ?
Oui, peut-être il y a quelques jours.
Bah, c'est un très beau rêve, hein.
Oui, je l'ai perçu comme ça aussi. Pourtant, il y avait un sentiment d'angoisse qui planait pendant tout le rêve. Mais,
ah, évidemment, mais là, c'est la libération.
Mais après ça, je me suis sentie très bien, oui.
Vous avez tellement d'amour pour vous-même ou pour l'humain d'une façon générale que c'est une vraie libération.
Tout à fait, c'est comme ça que je l'ai perçu, oui. Et c'est effectivement un processus, ce processus d'amour pour moi-même et pour l'humain en général et de libération, j'ai commencé à le ressentir il y a quelques années et il s'accentue de plus en plus, disons. Et j'ai eu d'autres manifestations aussi ces derniers jours, très très fortes, d'une manière de renouer à l'enfant que j'étais, mais à travers mon monde intérieur, mon monde intérieur et la richesse du monde tel que je la voyais à travers mes yeux d'enfant, mais tel que mes parents m'interdisaient de la voir d'une certaine manière, puisqu'ils auraient voulu que je voie le monde à leur manière à eux, et moi j'avais ma manière à moi que je gardais secrète, disons, et que j'avais oubliée depuis très longtemps maintenant, puisque j'ai 32 ans. Là, il y a quelques jours, j'ai eu une sensation très très forte de retrouver ma manière de voir le monde comme quand j'étais enfant, mais ma manière qui était à l'époque secrète et qui maintenant n'est...
Et vous accédez aussi à votre désir d'enfant, apparemment.
C'est-à-dire hein.
Ben là, on a l'impression que vous avez un regard sur l'enfant extérieur qui est tellement plein d'amour que c'est comme si vous retrouviez le désir d'avoir vous-même un enfant.
Oui, c'est vrai, oui. Tout à fait.
Et là, vous êtes apparemment prête. Avant, vous ne pouviez pas en avoir parce que vous saviez que vous auriez reproduit inconsciemment le schéma du père.
Ah oui, tout à fait. C'était d'ailleurs conscient, d'ailleurs. L'une des raisons conscientes pour laquelle je n'avais pas envie de faire des enfants, c'était que je me disais, si c'est pour éduquer les enfants de cette manière-là, si c'est pour... parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir y échapper, disons, à cette influence-là. Si c'est pour éduquer les enfants de cette manière-là et puis les rendre malheureux parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens heureux, et ben c'est pas la peine de faire des enfants, quoi.
Donc le désir est là. En tout cas, votre regard sur l'enfant a complètement changé, même sur l'enfant extérieur. Donc vous avez de l'amour pour les enfants qui sont autour de vous.
Oui, plus, oui.
Merci pour ce rêve.
Merci beaucoup à vous.
Et bonne continuation, Delphine.
Merci, vous aussi.